VOA Afrique.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, monsieur, bonsoir. Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui en ce lundi 6 décembre 2021. Une demi-heure d'actualité et de magazine que vous propose VOA Afrique. Les titres que nous avons développés ce soir. En Gambie, le chef de l'État sortant, Adama Barrow, proclamé vainqueur de la présidentielle, mais ses adversaires contestent. Au Niger, au moins 12 militaires ont été tués dans une nouvelle attaque djihadiste dans la région des Trois Frontières. Au Bénin, l'opposant Joël Aïvo devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Pluie d'hommage à l'ancien sénateur Bob Dole, figure de la politique américaine, qui est mort à 98 ans. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rendez-vous avec l'économie et les sports dans environ 10 minutes. En République démocratique du Congo, la Cour de cassation a libéré provisoirement sous caution Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi. Vital Kamerhe a été condamné à 13 ans de prison pour détournement de fonds publics. La décision de la Cour est motivée par le tableau médical très critique du concerné, écrit la télévision d'État RTNC sur son compte Twitter. En Gambie, le chef de l'État sortant, Adama Barrow, a été déclaré hier très largement vainqueur de la présidentielle. Une proclamation saluée dans les rues de Banjul par des dizaines de milliers de supporters, mais contestée par ses rivaux. Le point avec Nathalie Barge.
Des foules de partisans ont défilé et dansé la nuit à Banjul. Adama Barrow s'est adressé à eux pour endosser sa victoire. Son adversaire, Ousseynou Darboé, aux côtés de deux autres candidats, conteste ses résultats et dit se réserver tous les moyens d'action. Monsieur Darboé affirme que leurs représentants ont constaté un certain nombre de problèmes au moment des opérations de comptage. La CEDEAO, acteur majeur dans la crise post-électorale de 2015 et le départ contraint de Yahya Jammeh, avait exhorté tous les candidats à accepter l'issue de cette élection. Il y a 5 ans, M. Barrow avait battu M. Jammeh qui dirigeait la Gambie depuis plus de 20 ans. Ce dernier, qui refusait de reconnaître sa défaite, s'est exilé en Guinée équatoriale sous la pression d'une intervention militaire ouest-africaine. Le parti de M. Barrow a créé une alliance avec celui de l'ancien président, mais M. Jammeh a préféré apporter son soutien à un autre candidat.
Au Niger, au moins 12 militaires et des dizaines de terroristes ont été tués durant le week-end écoulé dans d'intenses combats dans l'ouest du pays, à l'intérieur de la région dite des Trois Frontières. Les détails avec Rosine Mounezero.
Les accrochages ont eu lieu à 5 km de la localité d'Ofancio entre les militaires nigériens et des centaines de terroristes armés. 12 éléments sont tombés sur le champ d'honneur, 8 blessés. Côté ennemi, des dizaines de terroristes ont été tués, selon un communiqué du ministère de la Défense qui souligne que plusieurs motos des assaillants ont été détruites et des moyens de communication récupérés. Dans un premier temps, les militaires nigériens se sont farouchement défendus et ont occasionné des dizaines de morts à l'ennemi avant d'être submergés par leur nombre, explique le ministère. Mais des renforts venus des villes de Ouanzarbe et de Tera, ainsi que le soutien aérien, ont contribué à mettre l'ennemi en déroute, qui a abandonné des dizaines de morts et du matériel, relève le ministère de la Défense. Fancio est une commune rurale du département de Tera dans la région de Tillabéri, qui est régulièrement frappé par des groupes djihadistes.
Au Bénin, ouverture aujourd'hui du procès d'un opposant dont la candidature à la présidentielle d'avril dernier a été recalée. Il s'agit de l'universitaire Joël Aïvo, arrêté au lendemain du scrutin. Il est accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. Le compte-rendu de Ginette Fleur-Adande, notre correspondante à Cotonou.
Poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, le professeur Joël Aivo a été arrêté le 15 avril alors qu'il était de retour de l'université d'Abomey-Calavi où il dispensait des cours. Incarcéré à la prison civile de Cotonou, il avait comparu deux fois devant le juge d'instruction les 15 juillet et 5 août derniers. Des comparutions au cours desquelles il a sans cesse clamé son innocence. Ses avocats qui, dans un premier temps, ont demandé sa mise en liberté provisoire et après un non-lieu dans ce dossier n'ont jamais eu gain de cause.
En tant que citoyen, je pense que nous devons faire confiance à la justice de notre pays. Et cette justice doit travailler à apporter la vérité lorsqu'on parle de terrorisme. Il faut que la lumière soit faite sur ce dossier-là. Le Bénin est un état de droit.
Ce n'est pas du tout de la justice. On dirait que les magistrats professionnels de la cour de la Criette ont décidé de jouer avec le droit, de jouer avec les règles du droit.
Joël Aivo est représenté par plusieurs avocats béninois et étrangers qui espèrent qu'au terme de ce procès, leur client sera libéré. De Cotonou, Jeanette Fleur, dans des Pouvez-vous Afrique.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa appelle la population à se faire vacciner rapidement face au nombre record de contaminations au Covid-19 dû au nouveau variant Omicron détecté pour la première fois fin novembre dans le pays. Nous sommes confrontés à un taux de contamination sans précédent depuis le début de la pandémie, a déclaré aujourd'hui le chef de l'État. Le pays a dépassé la semaine dernière le nombre de 3 millions de contaminations pour près de 90 000 morts. Mort au 3 décembre dernier. Toujours en Afrique du Sud, mort du combattant anti-apartheid Ebrahim Ismaïl Ebrahim à l'âge de 84 ans. Il est décédé aujourd'hui d'une longue maladie à son domicile de Johannesburg. D'après l'ANC, Ebrahim Ismaïl Ebrahim a passé une partie de sa vie au pénitencier de Robben Island et a côtoyé les grands de la lutte anti-apartheid, dont Nelson Mandela. Le parti au pouvoir a salué un membre de longue date de l'ANC, un patriote qui a servi son pays à plusieurs titres avec humilité, dévouement et distinction.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ancien sénateur républicain Bob Dole, une figure de la politique américaine et candidat malheureux à la Maison-Blanche, est mort hier dans son sommeil à l'âge de 98 ans. La nouvelle a déclenché un afflux d'hommages à celui qui est décrit comme un héros de guerre ayant incarné les valeurs de l'Amérique profonde. Davantage avec Mohamed Oumfa.
Né le 22 juillet 1923, Robert Joseph Dole a grandi à Russell, une petite ville du Kansas. Rentré médaillé, mais grièvement blessé de la Deuxième Guerre mondiale, il subit opération sur opération pendant 3 ans. Il réapprend à marcher, retrouve la maîtrise de son corps, à l'exception du bras droit. Les habitants de Russell se cotisent et se mobilisent autour du jeune avocat qu'il est devenu. Il entre en politique en 1952 et d'abord élu en 1961 représentant au Congrès, puis sénateur du Kansas pour une carrière parlementaire de 35 ans. 3 fois candidat à l'investiture républicaine, il s'était lancé dans la course à la présidence mais a été battu par Bill Clinton en 1996. À la retraite, Bob Dole a continué à combattre les politiques des démocrates dont le projet de réforme de l'assurance maladie de Barack Obama. En février dernier, il a annoncé être atteint d'un cancer des poumons. Peu après l'annonce de sa mort, le président Joe Biden a salué un homme d'État comme il y en a peu dans l'histoire des États-Unis, ordonnant de mettre les drapeaux en berne jusqu'à jeudi. Pour l'ex-président Donald Trump, M. Dole était un héros de guerre américain et un vrai patriote. Barack Obama a évoqué sur Twitter un héros de guerre, un leader politique et un homme d'État.
Les États-Unis n'enverront aucun représentant diplomatique aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de Pékin de 2022 en raison du génocide et des crimes contre l'humanité en cours au Xinjiang, indique la Maison-Blanche. En étant présente, la représentation diplomatique américaine traiterait ces Jeux comme si de rien n'était, malgré les violations flagrantes des droits humains et les atrocités de la Chine au Xinjiang. Et nous ne pouvons tout simplement pas faire à cela, a soutenu la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki.
Le procureur général de la CPI, la Cour pénale internationale, défend sa décision de ne pas inclure les États-Unis dans une enquête sur l'Afghanistan, affirmant que les pires crimes ont été commis dans le pays par les talibans et le groupe État islamique. « J'ai pris la décision en me basant sur des preuves », a déclaré aujourd'hui Karim Khan durant une réunion des pays de la CPI. L'ouverture d'une enquête de la CPI en Afghanistan sur des crimes présumés commis par des soldats américains avait conduit l'administration de l'ancien président américain Donald Trump a imposé des sanctions à Fatou Bensouda, la prédécesseur de Karim Khan. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde ce soir. Et maintenant, un résumé des nouvelles économiques, c'est la Minute Éco. Avec Rosine Mounezero ce soir.
Des milliers de personnes, étudiants et travailleurs, étaient bloqués lundi dans les gares routières du Ghana en raison d'une grève générale des chauffeurs de taxis collectifs contre le coût élevé du carburant. Le Ghana applique cette taxe par litre de carburant qui coûte 1 euro. Après avoir reçu une invitation de la présidence, les chauffeurs ont affirmé qu'ils allaient suspendre la grève. Mais un possible accord entre le gouvernement et les syndicats reste incertain. L'opérateur de téléphonie mobile MTN teste la technologie mobile de 5e génération en Côte d'Ivoire pour répondre à la demande en débit Internet. Les préparatifs pour la 5G interviennent un an après le lancement de la 4,5G en décembre 2020. La transformation numérique accélérée et le besoin d'une connectivité Internet plus importante appropriée n'ont cessé de croître, rapporte l'agence Ecofin. La planète fait face à un mur de Berlin numérique grandissant entre trois zones géographiques, a affirmé lundi Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Selon la patronne du FMI, les États-Unis, l'Europe et la Chine voient régulièrement surgir des conflits commerciaux. Les pays à revenus faibles devraient choisir leur camp et, une fois bloqués, être confrontés à des prix plus élevés et à un service moins bon. Elle évalue les risques de perte de PIB mondial de 3% à 6%. D'ici la prochaine décennie.
Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. On connaît désormais tous les clubs qualifiés pour la phase de poule de la Coupe CAF. Coton Sport de Garoua y sera après sa victoire 2-0 devant les Mauritaniens du FC Nouadhibou. Ça passe aussi pour deux anciens vainqueurs de la compétition, la Renaissance sportive de Berkane et le CS Sfaxien, tout comme les Algériens de la JS Saoura qui ont renversé les Ghanéens d'Art of Hoc. Qualification aussi pour l'ASEC d'Abidjan, double vainqueur des Angolais d'Interclubé, de Simba de la Tanzanie et des Congolais de l'AS Otowo Doyo, tombeur des Kenyans de Gor Mahia. En revanche, les deux clubs maliens engagés dans la course ont été éliminés. Le Stade malien tombé au tir au but devant Al Ahly Tripoli et Binga FC, qui a frôlé l'exploit face aux Zambiens de Zanaco. Binga a gagné au match retour 2-0 insuffisant, puisqu'il a perdu 3-0 à l'aller. Des regrets pour Philly Dembélé, coach de Binga FC.
On pouvait marquer au moins un but, mais on n'a pas répondu par rapport à deux occasions qu'on a eues en première mi-temps. Et si on avait au moins marqué un but, et vous voyez en deuxième mi-temps, ça veut dire que le reste des buts allait venir. La deuxième mi-temps, on est parvenu à scorer une seule fois. Et le deuxième but est venu comme ça parce qu'on était galvanisé, parce qu'on avait demandé d'être dans la surface de réparation, que c'est possible. Donc là, c'est vraiment regrettable.
Philly Dembélé, coach de Binga FC. Bilan décevant aussi pour la République démocratique du Congo. Si le tout-puissant Mazembe s'est qualifié au détriment des Sud-Africains de Marumo Gallant, ce n'est pas le cas de Maniema Union et du Daring Club Motoma Pembe, sortis respectivement par les Égyptiens de Pyramide et les Nigériens de l'US Gendarmerie. Coup d'arrêt aussi pour les Nigériens de Rivers United, éliminés par l'autre club égyptien Al Masri. La Coupe arabe des Nations à présent, la compétition se poursuit au Qatar. Début aujourd'hui de la troisième et dernière journée de la phase de poule, deuxième du groupe B, la Tunisie a son destin en main face au leader du groupe, les Émirats Arabes Unis. Au même moment, la Syrie, troisième, fait face à la Mauritanie, dont la chance de qualification est mince. Trois pays africains ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale. À l'issue de la deuxième journée, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc, les Pharaons ont largement battu le Soudan 5-0 et les Fenech 2-0 face au Liban. Les deux sélections s'affronteront demain avec pour seul enjeu la première place du groupe D. De leur côté, les Lions de l'Atlas ont assuré dans la poule C contre la Jordanie 4-0. Handball à présent avec le mondial féminin en Espagne. Grosse désillusion pour les quatre représentants africains qui n'ont pas encore enregistré la moindre victoire après deux matchs. Dans le groupe A, l'Angola s'est inclinée 20-30 devant le Monténégro, tout comme le Cameroun dans la poule B qui n'a pas existé face à la Serbie, vainqueur 43-18. Dans le groupe F, le Congo et la Tunisie ont essuyé leur second revers. Les Tunisiennes ont frôlé l'exploit contre la Corée du Sud, battue 31-29. En revanche, lourde défaite 30-18 des Congolaises devant les Danoises. La Tunisie fait face au Congo ce soir.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci de votre fidélité. Jacques Aristide toujours avec vous. Et maintenant, nous vous proposons la Trans Magazine. D'emblée, cap sur le Mali, les habitants de Banzagara ont entamé aujourd'hui une opération de désobéissance civile pour manifester leur mécontentement après une nouvelle attaque meurtrière dans cette partie du pays. Au moins 31 personnes ont été tuées et 17 blessées vendredi dernier dans l'attaque par des djihadistes présumés d'un véhicule de transport près de Banzagara dans la région de Mopti, dans le centre malien. Les habitants réclament la fermeture des services étatiques et non étatiques de Banzagara, hormis les centres de santé, les commerces et le transport en commun. Pour en savoir davantage, Modibo Dembélé s'est entretenu avec Ousmane Arama, journaliste à Banzagara.
Les services de l'État ont fermé la porte suite à une désobéissance civile qui a été décrétée hier et mise en vigueur ce matin, lundi, par les forces vives de Banzagara, les religieux, les notables, la jeunesse, la CAFO et le Recotrat. Bien sûr que ça a été suivi à 100% parce qu'il y a une commission chargée du suivi. Cette commission a fait le tour de la ville ce matin et j'étais parmi eux en tant que journaliste et j'ai vu que la plupart des services qu'on a visités ont fermé les portes à pas la santé, les pharmacies, mais les usagers de la route, eux, ils sont en train d'aller. Les ambulances, les transporteurs sont en train de partir. Les petits commerces, les boutiques aussi, sont ouverts aussi. Donc, ça a été suivi à la lettre.
Pourquoi les forces vives de Banzagara ont-elles décrété une opération de désobéissance civile?
C'est suite à l'attaque qui s'est perpétrée dans la journée du 3 décembre 2021 vers 10h à Songo, dans la commune de Dukombo, située à peu près à une quinzaine de kilomètres de Banzagara. C'était des forains qui venaient au marché de Banzagara, donc ils étaient à peu près au nombre d'une cinquantaine de personnes. Et ils ont croisé des hommes armés qui ont tiré sur le véhicule et après ont mis le feu dans le véhicule, causant jusqu'à 33 morts.
Comment les autorités locales et régionales ont-elles réagi?
Hier, le gouverneur de Banzagara, Meissa Fane, a effectué un déplacement pour aller constater d'abord les dégâts sur le lieu sinistre. Après, il s'est rendu dans le village de Songo, présenter les condoléances au nom du gouvernement. Et ce matin aussi, quand la désobéissance civile a été mise en vigueur, il a rencontré quelques notables dans leur vestibule. Par ailleurs, nous avons constaté aussi une importante quantité d'hommes armés qui sont venus à Banzagara, certainement la police nationale qui a quitté Sévaré, également aussi l'armée. Donc il y a des blindés qui étaient stationnés au niveau du rond-point. On ne sait pas si ils sont venus pour peut-être sécuriser les autorités en cas si la désobéissance civile débordait ou bien s'ils sont venus sécuriser la ville contre les attaques djihadistes.
Ces forces armées et de sécurité ne sont-elles pas présentes d'habitude à Banzagara?
Bon, d'habitude, on voyait quelques gendarmes, quelques militaires, mais une force vraiment remarquable de cette taille, c'est ce matin qu'on a vu.
Selon vous, quel peut être l'impact de cette opération de désobéissance civile dans une zone en proie au terrorisme et au banditisme?
C'est fait pour que les autorités puissent entendre le cri de cœur de ces populations pour que les gens puissent être sécurisés. Que l'État ramène plus d'hommes, d'effectifs et qu'ils mettent les moyens pour protéger les gens dans cette lutte.
C'était Ousmane Arama, journaliste à Banzagara.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Ouverture aujourd'hui du 7e forum de Dakar sur la paix et la sécurité. C'est en présence des chefs d'État du Sénégal, du Niger, de Guinée-Bissau, d'Afrique du Sud et du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. La rencontre de deux jours voit également la participation de plusieurs experts en sécurité et des officiels de la région. Cette année, les participants débattent du thème suivant, les enjeux de stabilité et d'émergence en Afrique dans un monde post-Covid. Pour en parler, Abdourahman Dia a joint à Dakar Ousmane Saleh Dagache, juriste, blogueur et spécialiste des questions de terrorisme.
Le forum intervient dans un contexte de sécurité extrêmement inquiétant au Sahel, d'autant plus que nous avons de plus en plus des attaques récemment d'ailleurs au Burkina Faso, au Niger. Les terroristes continuent à gagner du terrain. Donc c'est un forum qui est très important d'une part parce que il réunit de divers experts dans le domaine notamment de la sécurité, dans la lutte contre le terrorisme ou les djihadistes au Sahel, et d'autre part parce que ce forum peut aussi contribuer à cette facette des stratégies ou des mesures mises en place pour faire face aux multiples défis auquel le Sahel est confronté, notamment la question de lutte contre le terrorisme.
Justement, le président Sall a appelé à une flexibilité budgétaire pour faire face aux groupes terroristes, en tout cas dans la lutte contre le terrorisme. Est-ce qu'il y a une certaine peur d'un changement de priorité et que le terrorisme ne soit relégué au second plan derrière, disons, la lutte contre la pandémie de Covid-19?
Non, je ne pense pas. J'ai beaucoup aimé la déclaration, par exemple, du président de la Commission, Moussa Faki, qui dit que l'air est grave et qu'il faut vraiment que l'Afrique essaie de défendre elle-même, n'est-ce pas, se défendre elle-même contre cette lutte contre le terrorisme, mais qu'il compte également sur le partenaire international. Donc, je pense que c'est énigmatique parce que déjà, la question de sécurité n'est pas sérieusement maîtrisée par nos dirigeants et que le Covid est là. Donc, il y a une sorte de dilemme. Est-ce qu'il faut essayer de prioriser la question de la sécurité qui est aussi importante, ou aussi la question de la réponse sanitaire? Donc, je pense qu'ils sont dans un véritable dilemme, mais ils essaient quand même de trouver une alternative par rapport à ça. Mais je ne pense pas que la question sécuritaire soit reléguée au second rang.
Alors, le G5 Sahel, tout seul, est-ce qu'il peut faire face à cette menace, d'autant plus que cette menace s'étend jusque dans les pays du Golfe de Guinée et même au Sénégal?
Tout à fait, absolument. Surtout que le G5 Sahel a besoin beaucoup plus d'expertise dans le domaine militaire. Donc, je pense qu'un pays comme le Sénégal, s'il arrive à la région de l'espace régional, je pense que ça sera une valeur ajoutée.
C'était le blogueur Ousmane Saleh Dagache, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, le chef de l'État, Rochemarc Christian Kabore, confronté à une grave crise sécuritaire, a donné le coup d'envoi à une opération main propre pour vider tous les dossiers pendants de corruption et éclaircir toutes les affaires qui polluent le quotidien des Burkinabés, épris de bonne gouvernance et de démocratie, d'après ses propres termes. Réaction ce soir à des acteurs de lutte contre la corruption. Ils ne fondent pas espoir sur cette déclaration qui, selon eux, arrive tardivement. De Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Lamine Traoré.
Face à la pression des populations suite à l'attaque d'Inata dans le Sahel qui a fait 57 morts, dont 53 gendarmes et au moins 4 civils le dimanche 14 novembre, le président Kabore, dans une seconde adresse à la nation, le 25 novembre, a annoncé une opération dite « main propre ». À Ouagadougou, les populations ont leur avis sur cette opération.
Je pense que c'est une bonne initiative lancée par le président. C'est dommage qu'elle arrive maintenant, après bon temps de situations vraiment qui ont déçu la population, si je peux dire ainsi.
L'opération Mère Propre, ça devrait même être limpide. Parce que l'opération Mère Propre, pourquoi maintenant? Ça veut dire qu'on a laissé passer des choses et maintenant on veut corriger, non. Surtout après une insurrection qui a vu nos enfants tomber, et puis après, on laisse des gens aller plonger dans des caisses de l'État.
Que ceux qui ont pillé les aides de l'État, qui sont enrichis illégalement, les dossiers pendants, nous attendons à l'issue de cette opération-là, qu'on épingle réellement l'entourage du président. C'est très important.
Le président du FASO, après son annonce, a reçu dans la foulée le contrôleur général d'État de l'ASEELC, l'autorité supérieure du contrôle d'État et de lutte contre la corruption, et le procureur du FASO. Cette opération est la bienvenue et elle n'intervient pas tardivement, selon le contrôleur général d'État Luc Marius Ubriga, dans des propos rapportés par l'agence d'information du Burkina.
Aujourd'hui, sanctionner la corruption, c'est poser un acte qui remette la société dans le bon sens. Et pour nous, il n'est jamais tard. Parce que si il n'y a pas une opération main propre qui amène les uns et les autres à penser que la corruption ne peut pas être un mode d'acquisition ou d'enrichissement, ben, ça veut dire que nous voulons laisser notre société aux mains de la corruption. Et en ce moment, nous allons aller vers une société plus injuste et donc une société plus violente.
Mais au Rennes-Lac, le réseau national de lutte anticorruption, on ne croit pas à une telle opération.
La question est de savoir si le chef de l'État lui-même est capable d'impulser une telle dynamique de changement.
Sagado Nakanabo est le secrétaire exécutif du Rennes-Lac.
Les faits jusque-là nous montrent le contraire au regard de l'absence de résultats depuis son premier mandat. Même s'il a été réélu, le doute est permis. Son entourage immédiat est impliqué dans des dossiers de corruption. Ce que nous lui avons dit déjà en 2018, en lui faisant des propositions, en entendant ses promesses, mais 3 ans après, hélas, des dossiers restent non étudiés et lui-même semble impuissant face aux différents scandales qui éclaboussent le sommet de l'État. On peut se demander si ce n'est pas maintenant trop tard pour lui.
Après le drame d'Inata, Roch Kabore avait demandé l'ouverture d'une enquête administrative pour situer les responsabilités. Il a reçu la semaine dernière le rapport de l'enquête. Des sanctions disciplinaires et des poursuites judiciaires seront engagées, avait-il annoncé. Mais Roch Kabore a rejeté le dit rapport qui serait vide de contenu. Selon le journal d'État citoyen lundi, il a renvoyé les enquêteurs de l'inspection générale des armées sur le terrain pour un délai supplémentaire de 10 jours. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
L'ancien sénateur du Kansas, Bob Dole, candidat malheureux du Parti républicain à l'élection présidentielle américaine de 1996, est décédé hier à l'âge de 98 ans. Robert Joseph Dole, qui s'est éteint durant son sommeil, avait annoncé en février dernier souffrir d'un cancer du poumon à un stade avancé. Pour un témoignage sur la vie de ce politicien de haut vol, Jean-Roger Bion a joint ici à Washington Herman Cohen, ancien sous-secrétaire américain aux affaires africaines.
Bob Dole était un des grands politiciens américains du XXe siècle. D'abord, il était un blessé de guerre, un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Après, il était du Kansas, l'État de Kansas, et il était candidat, il a été élu au Sénat. Il a passé 50 années au Sénat. C'était un des grands dirigeants du Sénat. Il était président de la Commission des Affaires étrangères. Et il a eu une grande influence sur la politique étrangère des États-Unis pendant la 20e siècle.
Alors Bob Dole aussi, c'était le candidat malheureux à plusieurs présidentielles.
Oui, écoutez, il était candidat du Parti républicain pour la présidence. Une fois, il a perdu contre le président Clinton. Mais il était très admiré par le peuple américain. C'était vraiment un grand patriote et un homme avec beaucoup de bonnes idées. Et il a fait passer beaucoup de lois qui étaient très bonnes pour les États-Unis.
Alors, les hommages ne cessent d'affluer. Qu'est-ce qui en faisait un politique de haut vol aux États-Unis?
C'était un homme de compromis. Il n'était pas extrémiste. L'autre côté du Congrès, chez les démocrates, avec d'autres idées. Il était toujours prêt à négocier et trouver une solution moyenne entre les deux. Donc, il est adhéré pas seulement par les républicains, mais aussi par les démocrates. Et nous sommes très tristes qu'il est parti.
Alors, Bob Dole fut aussi un héros militaire. Que retient l'histoire de son parcours chez les militaires?
Quand la Deuxième Guerre mondiale a commencé, il était volontaire. Il est entré dans l'armée et il était envoyé en Italie. Pour les États-Unis, nous avons commencé la conquête de l'Europe par l'Italie. Et il était dans une région montagneuse. Et il y a une bombe qui s'est explosée pas loin de lui. Et ça a gravement blessé le côté droit. Il a perdu l'utilisation de son bras droit. Et il était à l'hôpital pendant presque 2 ans parce qu'il était tellement blessé. Et heureusement, il s'est récupéré et il a fait une grande carrière politique après.
C'était l'ancien diplomate américain Herman Cohen. Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Merci à toute la rédaction et à toute l'équipe de la production. L'info continue sur notre antenne et en ligne sur voafrique.com. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.